Le hasard fait des miracles. Chargé d'éclaircir l'affaire du vieux donjon et muni des renseignements nécessaires, l'inspecteur Béchoux prit le train du soir pour le centre de la France et descendit à Guéret, d'où une voiture l'amena le lendemain matin au bourg de Mazurec. Il commença par une visite au château, ancienne et vaste demeure construite sur un promontoire qu'entourait une boucle de la Creuse. Georges Cazévon y habitait. Riche industriel, président du conseil général, homme considérable par ses relations politiques, âgé tout au plus de 40 ans et bel homme, Georges Cazévon avait un masque vulgaire et des allures rondes qui commandaient le respect. Tout de suite, comme le vieux donjon faisait partie de son domaine, il voulut y conduire Béchoux. Il fallait d'abord traverser un beau parc, planté de châtaigniers, et l'on arrivait à une formidable tour en ruine, seul vestige qui resta du Mazurec féodal et qui s'élançait dans le ciel des profondeurs mêmes du défilé où la Creuse tournait lentement sur un lit de roches écroulées. Sur l'autre rive, qui appartenait à la famille d'Alescar, se dressait à 12 mètres de distance, formant comme une digue, un mur de gros moellons, tout luisant d'humidité, que surmontait, 5 ou 6 mètres plus haut, une terrasse bordée d'un balcon et où aboutissait une allée du jardin. L'endroit était sauvage. C'est là que, 10 jours auparavant, à 6 heures du matin, on avait trouvé sur la plus grosse des roches le cadavre du jeune comte Jean d'Alescar. Le corps ne portait d'autres blessures que celles qu'une chute peut produire à la tête d'un homme. Or, parmi les branches des arbres de la terrasse opposée, il en était une qui pendait, fraîchement cassée, le long du tronc. Dès lors, le drame se reconstituait ainsi. Jugé sur cette branche, le comte était tombé dans la rivière. Donc, accident. Le permis d'inhumer avait été délivré.
Mais que diable le jeune comte allait-il faire sur cet arbre ? Demanda Béchoux.
Regardez de plus haut et de plus près ce donjon qui était le berceau de la très vieille famille des Alescar, répondit Georges Cazévon. Je ne vous en dirai pas plus, monsieur l'inspecteur. Vous n'ignorez pas que c'est sur ma prière instante que la préfecture de police vous a donné mission. Il y a en effet de mauvais bruits qui circulent, des calomnies qui m'atteignent directement et auxquelles je veux mettre fin. Faites votre enquête, interrogez, surtout sonnez à la porte de mademoiselle d'Alescar, sœur du jeune comte et dernière survivante de la famille, et le jour de votre départ, venez me serrer la main.
Béchoux ne perdit pas de temps. Il explora le pied de la tour, pénétra dans le cirque de décombres accumulé à l'intérieur par l'éboulement des planchers et de l'escalier, puis regagna le bourg. Questionna, fit visite au curé et au maire et prit son repas à l'auberge. À 2 heures, il pénétrait dans l'étroit jardin qui descendait jusqu'à la terrasse et que coupait en deux une petite bâtisse sans style et délabrée qu'on appelait le manoir. Par l'intermédiaire d'une vieille bonne, il se fit annoncer à mademoiselle d'Alescar et fut aussitôt reçu dans une salle basse et simplement meublée où cette demoiselle causait avec un monsieur. Elle se leva, le monsieur aussi. Béchoux reconnut Jim Barnett.
« Ah, enfin te voilà, cher ami. Quand j'ai vu ce matin dans les journaux la nouvelle de ton départ pour la Creuse, vite j'ai pris ma 40 chevaux afin de me mettre à ta disposition. Et je t'attendais. Mademoiselle, je vous présente l'inspecteur Béchoux. « Envoyé spécial de la préfecture. Avec lui, vous pouvez être tranquille. Il a dû déjà débrouiller toute cette affaire. Je ne connais personne d'aussi débrouillard. C'est un maître. Parle, Béchoux. »
Béchoux ne parla point. Il était abasourdi. La présence de Barnett, qui était bien la dernière chose qu'il eût envisagée, le désemparait et l'horripilait. Encore Barnett. Toujours Barnett.
Il devait donc se heurter encore à l'inévitable Barnett et subir son exécrable collaboration. N'était-il pas avéré que, dans toute affaire à laquelle il se mêlait, Barnett n'avait pas d'autre but que de duper et d'escroquer? De quoi, d'ailleurs, Béchou eût-il parlé, puisque jusqu'ici, il avait pataugé dans les ténèbres les plus épaisses et ne pouvait se prévaloir de la moindre découverte. Béchou se taisant, Barnett reprit. « Eh bien voilà, mademoiselle, l'inspecteur Béchou, qui a eu le temps d'asseoir sa conviction sur des bases sérieuses, insiste vivement auprès de vous pour que vous vouliez bien confirmer les résultats de son enquête. Comme vous et moi n'avons encore échangé que quelques mots, auriez-vous l'obligeance de dire ce que vous savez relativement au drame dont fut victime le comte d'Alescar, votre frère ? » Élisabeth d'Alescar, grande et pâle en ses voiles de deuil, de beauté grave, avec un visage austère qui semblait tressaillir parfois de tous les sanglots qu'elle contenait, répliqua « J'aurais préféré garder le silence et ne pas accuser, mais puisque vous me conviez à ce devoir pénible, je suis prête à répondre, monsieur. Mon ami l'inspecteur Béchou désirerait savoir à quelle heure exacte vous avez vu votre frère pour la dernière fois. » « À 10 heures du soir. Nous avions dîné gaiement, comme d'habitude. J'adorais Jean, qui était de quelques années plus jeune que moi, et que j'avais presque élevé. Nous étions toujours heureux ensemble. »
« Il sortit dans la nuit ?»«
Il ne sortit qu'un peu avant l'aube, vers 3h30 du matin. Notre vieille bonne l'entendit. »
« Vous saviez où il allait ?»«
Il m'avait dit la veille qu'il allait pêcher à la ligne, du haut de la terrasse. » C'était un de ses plaisirs favoris.
Donc, sur l'espace de temps qui va de 3h30 au moment où l'on a découvert son corps, vous ne pouvez rien dire.
Si, à 6h15, il y a eu un coup de feu.
En effet, certaines personnes l'ont entendu.
Mais ce pouvait être quelques braconniers.
C'est ce que je me suis dit. Inquiète cependant, je finis par me lever et m'habiller. Quand j'arrivais à la terrasse, il y avait déjà des gens en face, et on le remontait vers le parc du château, la pente étant trop difficile de notre côté.
Cette détonation, n'est-ce pas, ne peut avoir aucun rapport avec l'événement, sans quoi l'examen du corps aurait révélé la blessure faite par une balle, ce qui n'est pas le cas.
Comme elle hésitait, Barnett insista.
« Répondez, je vous en prie. »
« Quelle que soit la réalité, je dois dire que, dans mon esprit, le rapport est certain. »
« Pourquoi ?»«
D'abord, parce qu'il n'y a pas d'autre explication possible. »
« Un accident ?»«
Non. Jean était à la fois d'une agilité extraordinaire et d'une grande prudence. Jamais il n'eût confié sa vie à cette branche beaucoup trop mince. »
Et qui cependant fut cassée.
Rien ne prouve qu'elle le fût par lui, et cette nuit-là.
Alors, mademoiselle, votre opinion franche, irréductible, c'est qu'il y a eu crime.
Oui.
Vous avez même, devant témoin, nommé le coupable.
Oui.
Sur quelle preuve vous appuyez-vous? Voilà ce que l'inspecteur Béchou vous demande.
Élisabeth réfléchit quelques secondes. On sentait qu'il lui était pénible d'évoquer des souvenirs affreux. Pourtant, elle se décida.
« Je parlerai donc. Et pour cela, il me faut rappeler un événement qui remonte à 24 années. À cette époque, mon père fut ruiné par la fuite de son notaire et dut, pour payer ses créanciers, s'adresser à un riche industriel de Guéret. Celui-ci prêta 200 000 francs à la seule condition que le château, le domaine et notaire de Mazurek lui appartiendrait s'il n'était pas remboursé 5 ans plus tard. »
Cet industriel était le père de Georges Cazévon.
Oui.
Il tenait à ce château?
Extrêmement. Plusieurs fois, il avait voulu l'acheter. Aussi, 4 ans et 11 mois plus tard, lorsque mon père mourut d'une congestion cérébrale,
il prévint notre oncle et tuteur que nous avions un mois pour nous libérer. Mon père n'avait rien laissé. On nous expulsa, Jean et moi, et nous fûmes recueillis précisément par notre oncle qui habitait ce manoir et qui n'avait lui-même que de très petites rentes. Il mourut presque aussitôt, ainsi que M. Casévon père.
Barnett et Béchou avaient écouté attentivement, et Barnett insinua
« Mon ami l'inspecteur Béchou ne voit pas bien en quoi tout ceci se rattache aux événements d'aujourd'hui. »
Mademoiselle d'Alescar regarda l'inspecteur Béchou avec un étonnement un peu dédaigneux et continua sans répondre.
Nous vécûmes donc seuls, Jean et moi, dans ce petit manoir, en face du donjon et du château, qui avaient appartenu de tout temps à nos ancêtres. Ce fut pour Jean une peine qui grandissait avec les années, à mesure que se développaient son intelligence et sa sensibilité d'adolescent. Il souffrait vraiment d'avoir été chassé de ce qu'il considérait comme son fief. Au milieu de ses jeux et de son travail, il se réservait des journées entières pour dépouiller nos archives, pour lire les livres qui parlaient de notre famille. Et c'est ainsi qu'un jour, il découvrit dans un de ses livres un feuillet où notre père notait les comptes de ses dernières années et marquait les sommes qu'il avait mises de côté à force d'économies et à la suite d'heureuses opérations de terrain. Il y avait là des reçus d'une banque. J'allai à cette banque et j'appris que mon père, une semaine avant sa mort, avait éteint son compte de dépôt et retiré 200 billets de 1000 francs auxquels ce dépôt avait fini par atteindre.
Justement, la somme qu'il devait rembourser quelques semaines plus tard. Mais pourquoi donc a-t-il différé ce remboursement ?
Je ne sais pas.
Et pourquoi ne remboursait-il pas avec un chèque ?
Je l'ignore. Mon père avait ses habitudes.
Donc, selon vous, il aura mis ses 200 000 francs à l'abri ?
Oui.
Mais à quel endroit ? Élisabeth d'Alescar tendit à Barnett et à Béchou un feuillet composé d'une vingtaine de pages et couvert de chiffres.
« La réponse doit être ici, »
dit-elle en montrant une dernière page où il y avait un dessin représentant les trois quarts d'un cercle auquel s'ajoutait, à droite, un demi-cercle de moindre rayon. Quatre hachures coupaient le demi-cercle. Entre deux de ces hachures, une petite croix. Tout cela, tracé d'abord au crayon, avait été repassé à l'encre.
Que signifie ? Demanda Barnett.
Nous avons mis bien du temps à le comprendre, jusqu'au jour où mon pauvre Jean devina que ce dessin représentait le plan exact, réduit à sa ligne extérieure, du vieux donjon. Même disposition de deux parties inégales de cercles soudés l'un à l'autre, les quatre hachures indiquaient quatre créneaux.
Et la croix ? Indique l'endroit où le comte d'Alescar avait caché ses 200 billets en attendant le jour de l'échéance.
Oui.
Barnett réfléchit, examina le document et conclut.
C'est fort probable, en effet.
Le comte d'Alescar aura eu la précaution de noter l'emplacement choisi, et sa mort subite ne lui a pas laissé le temps d'en donner communication. Mais il vous suffisait, il me semble, d'avertir le fils de M. Casévon et d'obtenir l'autorisation.
De monter au sommet de la tour. C'est ce que nous fîmes. Georges Casévon, avec qui nous n'entretenions que des relations assez froides, nous reçut aimablement. Mais comment monter au donjon ? L'escalier s'est écroulé il y a 15 ans. Les pierres se disjoignent. Le sommet s'effrite. Aucune échelle ni aucun ensemble d'échelles liées ensemble n'aurait pu atteindre des créneaux situés à 30 mètres de hauteur. Et il ne fallait pas songer à une escalade. Il y eut entre nous des conciliabules et des ébauches de plans qui durèrent plusieurs mois et qui aboutirent...
À une fâcherie, n'est-ce pas ?
Oui.
Georges Casévon s'est pris de vous et demanda votre main. Refus ? Brutalité de sa part, rupture. Jean d'Alescar n'eut plus le droit de pénétrer dans le domaine de Mazurek.
C'est ainsi en effet que les choses se passèrent. Mais mon frère ne renonça pas. Il voulait cet argent. Il le voulait pour racheter une partie de notre domaine, ou pour me constituer, disait-il, une dot qui me permettrait de me marier à mon gré. Cela devint chez lui une obsession. Il vécut en face de la tour. Il en contemplait inlassablement le sommet inaccessible. Il inventait mille moyens d'y parvenir. Il s'exerça au tir à l'arc, et le matin, dès l'aube, il envoyait des flèches munies d'une ficelle, avec l'espoir que la flèche retomberait de telle manière qu'une corde pourrait être attachée à la ficelle et hissée jusqu'au haut. 60 mètres de corde même étaient préparés. Tentative sans résultat, et dont l'échec le désespérait. La veille encore de sa mort, il me disait « Si je m'acharne, vois-tu, c'est que je suis sûr du résultat. Quelque chose de favorable aura lieu. Il se produira un miracle, j'en ai le pressentiment. Ce qui est juste arrive toujours, par la force des événements ou par la grâce de Dieu. »
Vous croyez donc, en définitive, qu'il mourut au cours d'un nouvel essai ?
Oui.
La corde n'est plus où il l'avait mise ?
Si.
Et alors, quelle preuve ?
Cette détonation, Georges Casévon, ayant surpris mon frère, aura tiré.
Oh oh ! Vous pensez que Georges Casévon est capable d'agir ainsi ?
Oui. C'est un impulsif qui se domine, mais que sa nature peut pousser à des excès de violence, au crime même.
Pour quel motif aurait-il tiré ? Pour dérober à votre frère l'argent conquis ?
Je ne sais pas. Et je ne sais pas non plus comment le meurtre a pu être commis, puisque le corps de mon pauvre Jean n'offrait aucune trace de blessure. Mais ma certitude est entière, absolue.
Soit. Mais avouez qu'elle est fondée sur une intuition plutôt que sur des faits. Et je dois vous dire que, sur le terrain judiciaire, cela ne suffit point. Il n'est pas impossible, n'est-ce pas, Béchou, que Georges Casévon, excédé, vous attaque en diffamation. Mademoiselle d'Alescar se leva.
Il importe peu, monsieur. Je n'ai pas parlé pour venger mon pauvre frère, à qui le châtiment du coupable ne rendrait pas la vie, mais pour dire ce que je crois être la vérité. Si Georges Casévon m'attaque, libre à lui. Je répondrai cette fois encore selon ma conscience.
Elle se tut, puis ajouta
« Mais il se tiendra tranquille. Soyez-en sûr, monsieur. »
L'entrevue était finie. Jim Barnett n'insista pas, mademoiselle d'Alescar n'étant point une femme que l'on intimide.
« Mademoiselle, nous nous excusons d'avoir troublé votre solitude, mais il le fallait, hélas, pour l'établissement de la vérité. Et vous pouvez être assuré que l'inspecteur Béchou tirera de vos paroles les enseignements qu'elles comportent. »
Il salua et sortit. Béchou salua également et le suivit.